Alors, c'est dans des moments comme ceux-là, des épreuves, des deuils, je pense que les quatre pas qu'on a vus prennent toute leur valeur. Quels sont ces quatre pas-là, ces quatre P-là? Vous en souvenez-vous? Le premier? La première présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve dans la présence de Dieu? Son plan, sa volonté, hein? On trouve qu'est-ce que... Et on ressort de là avec... Avant ça, la passion, peut-être, mais ça peut être parallèle si j'ai mis 1, 2, 3, 4, mais ça, la passion et la dernière chose qu'on voit, hein, dans laquelle on va s'arrêter un peu plus longtemps, c'est la puissance. Hein? Vous avez dans le bulletin une petite prière que je fais, que je pratique, et puis vous pouvez mettre vos mots, mais si on le fait à chaque jour, on dirait que ça nous met dans l'action. Seigneur, Dieu, Père, je désire voir, goûter, expérimenter ta présence à chaque jour, aujourd'hui. Hein? Tu es avec moi, tu agis, je veux connaître ton plan aujourd'hui, me joindre à toi et agir dans la mission particulière que tu me confies. Je veux, Seigneur Jésus, te servir avec passion, t'aimant et aimant mon Église et le monde de tout mon cœur. Esprit Saint, remplis-moi de ta puissance, équipé de tes dons, produisant ton fruit, accomplissant par celui qui agit en moi et en chacun de nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons, pour ta plus grande gloire sur la terre comme au ciel. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Après ça, on se lève, on va travailler, on va dans le métro, on va dans le trafic, et on prend conscience de la présence de Jésus qui est avec nous. On n'est pas tout seul dans ce monde-là dans lequel le Seigneur nous envoie. Alors, on a un cadeau à faire tirer. Et non la moindre. Alors, la puissance. On a reçu une autonome, un don gratuit, un cadeau gratuit, une faveur non méritée. Et puis avec ça, ben, on peut aller où on veut, on peut... Hein, avoir un projet de vie nouvelle, une vie transformée. Et puis, on s'assoit là-dedans, puis on est passionné. On a reçu un cœur nouveau, lavé, purifié, régénéré. On a reçu ce nouveau cœur-là, qui aime Dieu, il aime sa parole, il aime l'Église, il aime le monde. Le cœur, il désire obéir, il désire servir. Répandre la bonne nouvelle partout, comme des eaux vives dans le désert, comme un oasis dans le désert. Et puis, go! Put. On peut tomber en panne assez vite. La parole, elle parle de notre premier amour, l'excitation, le... Et c'est pas long qu'on se rend compte qu'on manque de puissance, hein, on manque d'essence, et qu'on doit se réaliser que même dans ce nouveau cœur-là, la puissance est pas là, intrinsèque, on peut dire. Hein. Elle est pas en nous-mêmes. Même dans mon nouveau cœur, je n'ai pas la puissance, je n'ai pas la capacité. Même dans ma nouvelle nature, j'ai pas cette capacité-là. De cette puissance-là, de suivre le Seigneur. Parce qu'on n'a pas été créé autosuffisant. Même, on a besoin assez vite de recharger nos batteries, de se brancher sur la source. Et qui est-ce qui a la puissance? Qui a cette puissance-là? Elle n'est pas en moi. Elle est en Jésus-Christ. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, Jésus-Christ a tout pouvoir. Et ensuite, à ce moment-là, il fait de toutes les nations des disciples, les baptisants, les enseignants, et voici, je suis avec vous. On a la présence, on a le plan, on a la puissance de Dieu. Et Jésus, ensuite, est parti, Mais il a averti ses disciples, il a dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous allez devenir mes témoins. Et on sait avec quelle puissance l'Évangile, les disciples, les apôtres ont été revêtus pour accomplir la mission. Et il avait prédit dans Jean, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, cette puissance-là, c'est Jésus, et Jésus qui a promis de nous donner son Saint-Esprit. Alors, mettons le Saint-Esprit dans le nouveau cœur qu'on a reçu, et on va avoir la puissance de Dieu. Un peu plus tard, à la Pentecôte, justement, Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » On a vu la photo de Denis tantôt. Hein? Il a reçu le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, qui est parallèle au pardon des péchés. Car la promesse est pour vous, les disciples, les apôtres de cette époque-là, pour leurs enfants, les futures générations, depuis 2000 ans, je ne sais pas combien il y a eu de générations, et pour tous ceux qui sont au Québec, ici, à Cloverdale, ou dans l'ouest de l'île. Alors, la promesse, c'est pour qui? Jésus dit, j'ai tout pouvoir, vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là va venir habiter en vous, et la promesse est pour moi. C'est à moi d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Qui veut expérimenter la puissance du Saint-Esprit? Je ne devrais même pas poser cette question-là. Hein? Mais comment on fait? Pas se retrouver avec le, en panne. Hein? Et on a vu la dernière fois qu'il y a comme un prérequis, il y a comme une expérience qui précède être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli de quelque chose, il faut être vidé de l'autre chose. Et quel était le prérequis, quelle était l'expérience qui a fait que les disciples ont appris une leçon, la première leçon. Hein? On a vu cette expérience-là dans la tempête qui n'était pas un hasard. Ça fait partie de leur formation. Jésus allait s'en aller, ils avaient besoin d'apprendre quelque chose. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Est-ce qu'ils ont suivi Jésus? C'était des disciples fidèles. Ils ont suivi Jésus. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Une bourrasque. Une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alors, ils étaient en péril. Ils suivent Jésus, ils sont en péril. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Quelle image, hein? Moi, j'ai un coussin chez nous, là. Et puis, c'est là que je vais me reposer. Quand il y a la tempête, là, j'ai mon coussin. Alors, faites-vous un coussin quelque part, une place où on peut, dans la tempête, aller se calmer un petit peu, dans la présence de Dieu, et recevoir la puissance. Il le réveilla et lui dit, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Est-ce qu'on lance pas cette prière-là, Seigneur, des fois, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent? Hein? Pourtant, je te suis, Seigneur. Hein? C'est toi qui as dit, passons de l'autre bord, allons de l'autre côté. On a embarqué avec toi, on t'a suivi. Puis regarde ce qui arrive. Et la réponse de Jésus, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi, ou, différentes versions, vous n'avez donc pas encore de foi? Gens de peu de foi, où est votre foi? Alors, Jésus, cette tempête-là, elle permet de révéler quelque chose aux disciples. Jésus met le doigt sur le bobo, si on peut dire. Hein? Quand on est dans une tempête, quand on traverse une épreuve, ça fait sortir la foi. Et souvent, ça fait sortir le manque de foi. Et je vous dis, avec l'âge, ça ne s'améliore pas. Hein? C'est comme si notre foi a toujours besoin d'être exercée, d'être pratiquée. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa, un grand calme se fit. Et ils furent saisis d'une grande crainte, pleins d'admiration, saisis de crainte et d'admiration. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Hein? Les disciples ont appris quelque chose dans la tempête sur le lac. Lorsqu'on vient, on arrive au bout de nos ressources, au bout de nos capacités, au bout de nos forces, on a épuisé tous les moyens de s'en sortir et qu'on crie à Jésus, qu'on fait appel, qu'on prie Jésus, il manifeste sa puissance. Hein? Et ils ont vu en même temps leur peu de foi. Ils ont vu la puissance de Jésus, mais ils ont vu aussi leur manque de foi dans cette puissance-là. Alors, on est des disciples de Jésus-Christ. On traverse des tempêtes. Qu'est-ce que ça révèle? Voyons ça comme des opportunités lorsqu'il nous arrive quelque chose, une tragédie ou une maladie ou quoi que ce soit. Voyons ça comme une opportunité d'exercer la foi, de grandir dans la foi. C'est Dieu qui permet cette chose-là. Il y a pas un cheveu de ma tête qui tombe sans qu'il le sache. Imaginez. Alors, voyons cette chose-là qui nous semble... Les disciples étaient vraiment perdus, là. Hein? On suit Jésus, puis on va mourir. Alors, rationnellement ou physiquement, c'était la catastrophe. Mais non, voyons une opportunité de dire, non, Jésus est présent avec moi. Dans cette tempête-là, dans cette chose que j'ai à traverser là, voir Jésus qui est présent et nourrir ma foi. Voir aussi une opportunité où Dieu va se manifester. Je veux voir Dieu se manifester dans cette situation-là. Qu'est-ce que, Seigneur, tu vas faire dans cette tempête-là? Je veux voir ça. Et la leçon numéro un, cours de disciple 101. C'est quoi la première leçon? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, le pasteur, souvent, ça prend beaucoup d'années avant d'arriver à même à passer la première leçon. Hein? On est capable. Mais les disciples devaient apprendre cette leçon-là. Cours de disciple 101. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est lorsqu'on est vidé de nous-mêmes qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Quel est le pire ennemi de la foi d'un chrétien? Et je pense qu'on le vit ici au Québec. C'est qu'on peut pas mal bien se débrouiller sans Dieu. On peut mener joyeuse et brillante vie, pas mal. De moins en moins, je pense que notre société s'en va vers la déchéance. On se paganise de plus en plus et on va récolter le fruit de ça. Mais là, il y a comme une transition, comme une période où on se débrouille pas mal bien ici au Québec, n'est-ce pas? Ceux qui viennent d'ailleurs peut-être voient la différence. Nous qui sommes nés là-dedans, peut-être qu'on ne voit pas la différence. Mais on peut se débrouiller pas mal bien sans Dieu. On manque pas de nourriture, on manque pas de plaisir, de bonheur, de plein de choses qu'on peut expérimenter. Mais la réalité ou la vérité, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai que la vie sans Dieu va apporter le bonheur, va apporter la paix, va apporter l'amour dont on a tellement besoin. C'est un mensonge du diable. La réalité, c'est que on est dépendant Dieu nous a créés dépendants. La preuve, on prend un grand respire. On arrête ça là. Combien de temps qu'on va résister? 2 minutes? 2 minutes, on a une infirmière ici. Peut-être ceux qui sont bons, 5 minutes, je pense qu'il y en a qui peuvent arriver à 5 minutes. On a besoin d'air pour respirer, pour vivre. Hein? Nourriture? Quelques semaines sans nourriture? Et déjà, on voit la faiblesse. Hein? Alors, Dieu nous a créés dépendants physiquement d'air, de nourriture, etc., etc. Il y a des besoins physiques qui ont besoin d'être nécessaires. On n'est pas autosuffisant. Hein? L'autosuffisance, là, mensonge du diable. Et c'est vrai aussi émotionnellement, psychologiquement. Qu'est-ce qu'on a besoin émotionnellement? Amour. Hein? Si je n'ai pas d'amour, je meurs. Je meurs. Et de la valeur, une sécurité, hein, dans ma valeur. Besoin d'amour, de valeur. Et si je n'ai pas ça, je meurs, je ne respire plus. Si je suis dans un endroit où il n'y a personne qui m'aime, je suis en train de mourir. Que ce soit à job, que ce soit dans la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? C'est vital. On a besoin de ça. Et quel autre besoin qu'on aurait? Physique, émotionnel, spirituel. Alors, on a été créé pour quoi? Tu aimeras, Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Mon âme a soif de quoi? Mon âme a soif de Dieu. Hein? L'être humain a une soif, il y a un vide à l'intérieur de l'homme qui est grand comme Dieu. Et c'est un vide que Dieu seul peut combler. Les autres êtres humains peuvent garnir ça un petit peu pour un certain temps. Les substances peuvent le faire aussi pour un certain temps. Mais Dieu seul va combler le besoin dans mon cœur. Alors, on est dépendant. On est dépendant d'air pour vivre. On est dépendant d'amour pour vivre. On est dépendant de Dieu pour vivre. Une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu nous a pas laissé souffrir dans ces conditions-là. Et un principe important, c'est je vais trouver ce que je cherche. Ce que tu trouves, c'est ce que tu cherches. Alors, où est-ce que je vais? À quoi est-ce que je me confie pour satisfaire ma soif de ces besoins-là, d'amour, de valeur, ma soif de Dieu? Dans quoi est-ce que je me confie? Pour apaiser la colère, parce que c'est clair que il y a des gens aujourd'hui qui vont me blesser. Et c'est clair que je vais blesser des gens aujourd'hui. On est tous imparfaits, on vit dans un monde imparfait, et ça provoque de la douleur, ça provoque de la colère. Où est-ce que je vais pour apaiser ces douleurs-là, cette indignation-là dans mon cœur devant l'injustice que je subis ou bien devant ma propre culpabilité. Alors, qu'est-ce que le monde a à nous offrir pour apaiser, remplir le cœur de ce qu'il y a besoin et apaiser mon cœur lorsque je ne l'ai pas? On peut aller dans les substances. Tu as eu une réunion du conseil qui était difficile. Hein? Tu arrives chez vous, tu sors le pot de crème glacée. Je parle pas de l'église ici, là. Mais les autres conseils avant. Hein? Et ça, je vous l'avoue, là. Hein? C'était un beau plat de crème glacée. Ça me fait du bien. Hein? Il y a quelqu'un qui m'aime. Moi. Hein? Je me fais du bien. et j'apaise cette douleur-là. On a toutes nos façons de soulager la douleur. Il y en a, ça va être la nourriture. D'autres ont besoin d'un peu plus fort, de drogue, d'alcool, de sexe, la pornographie. Hein? On se procure un plaisir facile, gratuit. Le jeu, l'argent, gagner de l'argent, c'est la passion. Magasinage, c'est presque sans fin. Les substituts, je pourrais dire, à l'amour de Dieu, on peut aller, on va chercher ce qu'on trouve, on peut aller dans ces substances-là, et puis ça va apaiser. Combien de temps ça dure la barre de chocolat? Le plaisir d'avoir mangé une barre de chocolat, combien de temps ça dure? Le temps que ça prend pour la manger. Puis là, qu'est-ce que tu veux? T'es encore mal, qu'est-ce que tu fais? Un autre bar? Tu ne devrais pas finir le sac de chips. Pas bon pour ma santé, mais tu sais, comment je peux résister à ça? Alors, on avale le sac de chips. On a besoin d'augmenter la dose. Et c'est exactement, on s'en écœure. Parce que ça ne satisfait pas. Un petit exemple, là. Pour augmenter la dose de drogue ou de porno ou de jeu ou de quoi que ce soit, on reste sur notre répétition, on reste. Alors, ça, c'est des substances, il y a des personnes aussi. On peut confier notre bonheur à des personnes. Maudit soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'homme ou la femme. Hein? Si je confie mon bonheur à une autre personne, je suis dans le trouble. Si mon bonheur dépend de cette personne-là, jamais, jamais, je serai satisfait. Oui, certainement, merci Seigneur, lorsque la personne a performé et puis je ressens son amour, c'est une grâce de Dieu. Mais il n'y a personne qui va prendre la place de Dieu et qui va combler mon besoin à l'intérieur. Et malheureusement, on peut être une mauvaise dépendance des autres personnes. On a désespérément besoin d'être aimé, d'avoir de la valeur, puis on est prêt à endurer n'importe quoi pour une petite goutte d'amour. J'en entends des témoignages. C'est les personnes, les femmes en particulier, ont enduré aux mains de maris écœurants. Juste parce qu'ils avaient besoin d'une petite goutte d'amour. Ils espéraient toujours. Alors, tout ça pour dire que c'est pas pour rien que Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Hein? Jésus n'est pas parti puis dit « Débrouillez-vous ». Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Je vais vous envoyer un consolateur. Est-ce qu'on a besoin d'un consolateur? Hein? Jésus a vécu 30-quelques années sur terre. Hein? Il savait ce qu'on avait besoin. On a besoin d'un consolateur. Parce que vivre sur terre, c'est pas une partie de plaisir. Et spécialement pour des chrétiens. Il dit, c'est plus avantageux. C'est plus avantageux que je m'en aille. Est-ce que ça serait pas plus avantageux que Jésus soit ici ce matin puis qu'il prenne ma place puis qu'il apporte le message? Ben, ça a l'air que non. Hein? Il dit, le Saint-Esprit ne sera pas juste avec vous. Il va être en vous, présent, quelques heures par jour. Quand on est vraiment mal pris, là, on sort du garde-robe. Hey, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Hein? Non. Hein? Une présence intime à toutes les heures, à toutes les. Il n'y a pas un moment où je ne peux pas faire appel au consolateur. Ou à l'avocat, si on est mieux. Ou à celui qui va plaider notre cause, celui qui va marcher à côté de nous. Le Saint-Esprit marche à côté de toi, mon frère, ma sœur. On s'en va au salon funéraire ce soir. Saint-Esprit marche. Faut que j'apporte un message à cette famille-là. Si j'ai pas le Saint-Esprit, si j'ai pas Jésus à côté de moi, mes paroles vont tomber sur mes orteils. Hein? On a besoin continuellement. La prière qu'on a au début, là, Seigneur, tu es en train d'agir. Moi aussi, je vais agir avec toi. Et j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance à l'œuvre. Un besoin physique, hein? Un besoin d'eau. Les disciples avaient une leçon à prendre. Première leçon, disciple 101. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et suivre Jésus-Christ, ça prend rien de moins qu'un miracle. Si tu es ici, assis ce matin, là, tu es un miracle. C'est impossible de vivre la vie chrétienne sans Dieu. Alors, si tu es là, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a gardé. Tu dépends de l'Esprit de Dieu, sinon tu ne serais pas ici. C'est trop fort. C'est trop fort. Ça prend une force surnaturelle. La puissance de Dieu. On a reçu une nouvelle voiture, une nouvelle nature, un nouveau cœur régénéré, lavé, purifié, qui aime le Seigneur, qui veut servir le Seigneur. Hein? Mais ce cœur-là a besoin d'être rempli d'essence. Il a besoin d'être rempli de puissance, sinon ça va faire put, put, put. On va sortir d'ici, puis pff, un esprit de force. Je veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. La promesse qui est pour nous, la promesse du Saint-Esprit, qui est venu à la Pentecôte, puis qui a continué, qui s'est rendu jusqu'ici, les fleuves d'eau vive se sont rendus jusqu'ici, moi je veux voir cette puissance-là. Et elle est en chacun de nous, et si chacun de nous on fait cette prière-là, sincère, du cœur, Seigneur, je veux goûter à ta, expérimenter ta présence aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu es en train d'agir, je vais me joindre à ton plan, à ta mission. Et puis, je veux le faire de tout mon cœur, Seigneur, c'est la priorité dans ma vie. Et sans ta puissance, on peut rien faire. La deuxième leçon, cours de disciple 102, je puis tout par celui qui me fortifie. Hein? Une fois qu'on est guidé, on est rempli de cette puissance-là. Je puis tout. Dans Éphésiens, la prière de Paul, je l'ai résumé un petit peu. La prière de Paul, c'est qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que vous sachiez, hein, qu'on connaisse quoi? Afin que vous sachiez quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Est-ce que tu vis ça? Et il en rajoute un peu plus loin. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, à lui la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, même 2000 ans plus tard au Québec, au siècle des siècles. Amen! Hein? Je veux voir la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes exemptés des épreuves et des tentations? Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'on fait des forteresses. Et durant les forteresses, peut-être, on est rendu à 1000 personnes, peut-être, qui ont fait les forteresses. Et on demande, j'en ai quelques exemples ici, aux gens, c'est d'une façon anonyme, les gens écrivent, des chrétiens, il y en a qui c'est de longue date, qui écrivent sur un petit papier, qui amènent à la lumière les combats qu'ils livrent, les choses sur lesquelles ils n'ont pas la victoire dans leur vie. Je vais juste en lire quelques-unes. Nourriture, mauvaise image de soi, timidité. Solitude, pensée obscène, séduction, mauvaise image de moi, travail, pornographie, pensée obscène, crise de colère incontrôlée, convoitise, nourriture, sucre, caféine, langage blessant, crise de colère, rêverie, pensée obscène, difficulté de prier, rancœur, difficulté à m'engager, esprit de jugement, mépris, paresse, anxiété, difficulté de témoigner ma foi, langage blasphématoire, crise de colère, abus verbal, insulte, médisance, esprit de jugement, esprit querelleur, crise de colère, esprit de jugement, ça revient, travail, workaholic, moment de déprime, dépendance au courriel, indiscipliné, excès de nourriture. Il y en a peut-être quelques centaines ici. Ça, ce sont des chrétiens remplis de la puissance de Dieu qui luttent depuis des années sans victoire sur ces choses-là. Des choses qui les dominent, qui sont plus forts, qui disent, qui pensent que c'est plus fort qu'eux. Et probablement que si on distribuait des petits cartons, on aurait le même portrait. Comment on va résister? Comment on va résister? Comment cette puissance qui habite en nous, comment on va faire pour résister au diable et vivre dans la victoire sur ces choses-là qui n'ont pas leur place dans la vie d'un chrétien? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne peut pas vivre là-dedans indéfiniment, ne peut pas pratiquer ces choses-là sans qu'il soit torturé dans son âme, dans son esprit. Comment on va faire pour lutter, voir la puissance de Dieu dans les tentations, les mauvaises pensées, désirs, convoitises de la chair, les mauvaises habitudes, les dépendances? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est votre... Je vous pose une question. C'est quoi la première chose à faire? Pardon? Oui, lorsque... Oui, on les reconnaît. OK. C'est quoi le réflexe d'un enfant de Dieu en face de la tentation? C'est quoi la première chose à faire lorsque vous êtes tenté? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tenté? Oui, monsieur. Oui. OK. Alors, peut-être une sorte particulière de prière. Mais appeler un frère. OK. Autre chose? Moi, j'en prends la chute des télévisions. Au nom du Christ, soit à l'intérieur de moi, qui part et bien. Au nom du Christ. Oui. Alors. Oui. Quand ça vient de l'extérieur. Autrement dit, si c'est la chair stupide, je vais me battre contre la chair stupide. Si c'est un esprit méchant qui utilise la chair stupide, hein, mettez-vous en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Alors, c'est sûr que si je médite la tentation pendant un certain temps, et que je succombe, ça donne un accès au diable. Puis là, j'ai pas juste affaire à ma chair, j'ai affaire à des esprits impurs, des esprits méchants qui vont se servir de ça. L'exemple que je donne souvent, c'est que t'es dans une barque et puis t'as beau chasser les esprits, mais il faut boucher le trou. On peut chasser l'eau de la barque, mais il faut boucher le trou. Une fois qu'on bouche le trou, on a du succès. Donc, identifier, ça vient d'où cette tentation-là? Mais peut-être on va voir ça plus tard, mais c'est quoi la première chose à faire pour un chrétien face à la tentation? Qu'est-ce que vous faites? Pardon? Ouais, ou qu'est-ce que Jésus a fait? Il a été tenté? La parole? OK. Est-ce que la tentation, c'est péché? C'est ce qu'on fait avec. Hein? Parce que Jésus a été tenté. Donc, lorsqu'on est tenté, on peut être comme Jésus. Alors, c'est une bonne piste. Ouais, moi, je dirais qu'il faut faire la différence entre la crainte, l'inquiétude et ce que je fais avec. Alors, d'avoir peur quand c'est épeurant, c'est tout à fait légitime. Dieu nous a créés comme ça. C'est un sentiment qui est légitime. Mais si si je règle pas cette peur-là, comme Dieu veut que je la règle, cette peur-là, elle va se changer en quelque chose de négatif. Et l'anxiété, l'angoisse, c'est une peur, d'après moi, qui n'a pas été réglée comme Dieu. Oui, elle te protège. Oui, oui. Oui. Okay. J'arrive devant un ours. La peur va me sauver la vie. Hein? Alors, c'est pas mauvais. Puis je vois quelqu'un qui est en train de taper ou fesser sur un enfant, puis si j'ai pas de colère, je suis pas comme Dieu, là. Alors, ces émotions-là sont tout à fait légitimes, puis ils nous poussent à l'action. Maintenant, si je passe le reste de ma vie dans cette colère-là, ça devient de l'amertume, ça devient de l'anxiété, ça devient de l'angoisse, ça devient quelque chose qui est négatif, puis qui me ronge à l'intérieur, parce que je n'ai pas appliqué. Mais revenons à... Oui, Benoît. Oui. Ça, c'est très vrai. Il y a un mensonge derrière. Pourquoi ça me fait mal de même? Il y a des choses... L'autre à côté, ça y fait rien. Moi, ça me met à terre. Pourquoi? Un mensonge, là. Cette chose-là, elle vient, elle m'envoie un message. Hein? Oui, quelqu'un m'a poignardé, m'a fait du mal, mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la lame? Toi, Michel? Ça peut être ça. Alors, il y a des mensonges qu'on croit qui nous tiennent liés, puis on peut pas, puis qui donnent accès aux diables. La vérité, vous, va vous affranchir. Le mensonge, nous, l'enchaîne. Mais,
la décision.
Décision, oui.
Face à la tentation, moi, je peux aller dans la direction de dans le
souhait.
Ouais.
Donc,
j'ai une décision
suite,
là, que je fais, là.
Ouais.
Est-ce que je la reconnais? Que je souhaite que c'est une tentation dans la
réparation. Oui.
Et puis, je m'en vais dans cette direction-là.
Oui. OK, là, je m'adresse aux hommes. Hein? Celui qui regarde une femme commet l'adultère. Non, il manque de quoi? Oui, mais...
C'est juste que si on est tenté, quand on est tenté, on dit,
OK, mais juste, je m'excuse parce que j'ai tendu un piège. Hein? Ça dit pas que regarder une femme, c'est commettre l'adultère avec. Il manque pour la convoiter. Alors, c'est pas de trouver une femme belle qui est péché. C'est? Ouais. Ça me prend combien de temps, lorsqu'il y a une image sur mon écran qui apparaît, ça me prend combien de temps à peser sur délit? C'est ce que Claire elle nous dit. J'ai un choix à faire. Et le plus vite je délite, le moins ça fait de guerre à mon âme. Hein? Le plus vite je résiste à la... Comment on tue un serpent? Quand il est dans l'œuf. Hein? On peut l'écraser. On a cette puissance-là. On a la puissance de Dieu lorsqu'on agit rapidement. Alors, délite, mon frère. Hein? Ça peut être sur la rue, ça peut être... c'est tout à fait normal de trouver une femme belle et séduisante, et etc., etc. Tout à fait normal. Hein? C'est Dieu qui l'a fait de même. Et il fait pas les choses à moitié. Hein? Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Hein? Si je rumine dans ma tête, commence à faire des scénarios, là, je suis dans le pétrin. Alors, le plus vite, je délite. Un bon truc de vieux guerrier, là. Si vraiment vous avez de la misère à déliter, puis ça, l'image est restée, là, vous dites, OK, viens, on va aller devant le trône de la sainteté de Dieu avec cette image-là. Essaye ça. Tu vas voir que la lumière, ça chasse les ténèbres. Tu ne te souviendras même plus de cette image-là. Mais il faut agir rapidement. Donc, la première chose à faire avec la tentation, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on reprendra. Mais la première chose à faire avec la tentation, c'est délite. Le plus vite je choisis le bon chemin, le plus vite je vais avoir la paix, le plus vite je vais expérimenter la puissance de Dieu. Le plus vite, je vais me sentir fort, victorieux contre le péché. Ouais. Alors, peut-être les femmes ont d'autres combats. Hein? Ouais. Ouais. Ou le magasinage. Ouais, mais moi, je peux pas le dire. OK. Bon. Je parle de ce que je connais. Alors, on fait ça cette semaine? Délite, d'accord? Première chose à faire avec la tentation. On tue le serpent dans l'œuf le plus rapidement possible. Puis, waouh, ça marche, tu vas avoir la paix. Hein? Si tu rumines ça, tu vas récolter les tourments dans ton cœur, dans ton âme. OK, prions.